Raconte-moi, un balado sur la culture pop qui a influencé nos habitudes. Le 12 avril 1861 débute la guerre de sécession américaine. Deux clans s'affrontent, l'Union, dirigée par un certain Abraham Lincoln, et la Confédération, menée par Jefferson Davis. Ce clan rassemble 11 États du Sud qui se sont séparés de l'Union. En 1860, Lincoln, un républicain, remporte l'élection présidentielle des États-Unis. Il est fortement opposé à l'esclavagisme et souhaite son abolition. Sa victoire entraîne une première sécession de 7 États, 4 autres suivront. Cette guerre fera 620 000 soldats comme victimes et le tout se termine avec la fin de l'esclavagisme et la restauration de l'Union. Cette guerre a donné lieu à plusieurs représentations dans la culture populaire, comme les films Cold Mountain, Lincoln et 12 Years a Slave, le jeu vidéo Call of Juarez. Mais, plus surprenant encore, sans cette guerre, nous n'aurions pas un des produits les plus connus de la planète, le Coca-Cola. Coca-Cola est fondée le 8 mai 1886 par John Pemberton, un colonel blessé lors de la guerre civile américaine. En 1885, suite à sa blessure, Pemberton, qui était devenu dépendant à la morphine, souhaitait trouver une méthode de remplacement à cette drogue. Il a donc développé le Pemberton French Wine Cola Nerve Tonic, une boisson alcoolisée à base de coca, de noix de cola, c'est ce qui contient la caféine, et de Damiana. C'est un buisson qu'on retrouve dans le sud des États-Unis, au Texas, au Mexique, en Amérique centrale. En 1886, le comté de Fulton, en Géorgie, où Atlanta se trouve, ratifie une loi qui déclare la prohibition. Et c'est à ce moment-là que Pemberton modifie son tonic pour en enlever l'alcool. Et c'est ce qui deviendra le Coca-Cola. C'est intéressant de savoir qu'en 1885, il y a une entreprise espagnole qui avait présenté le Cola Coca et les droits de cette compagnie ont été rachetés par Coca-Cola en 1958. En 1886, les premiers verres de Coca-Cola étaient vendus en pharmacie à 5 cents. Pemberton prétendait que sa boisson pouvait guérir plusieurs afflictions comme la dépendance à la morphine, les indigestions, les troubles nerveux et même la dysfonction érectile. En mars 1894, le Coca-Cola fut embouteillé pour la première fois. Mais la forme iconique de la bouteille n'a été introduite que 21 ans plus tard, en 1915. Mais avant, la cocaïne fut retirée du breuvage en 1904. La guerre des bulles. Dès les premières années de fondation de la Coca-Cola Company, une guerre qui fait toujours rage aujourd'hui s'est amorcée entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Cette guerre des colas est à l'origine d'une des plus grandes erreurs commerciales du 20e siècle, mais nous y reviendrons. Pepsi, qui fut fondée en mai 1898 en Caroline du Nord, tirait de l'arrière au début des années 1900. Et a décidé de frapper un grand coup en doublant Coca-Cola qui vendait alors ses bouteilles à 5 sous pour 6 onces. Pepsi choisit de produire des bouteilles de 12 onces et de les vendre 5 sous. Depuis plus de 100 ans, les deux s'échangent des parts de marché, mais certains moments charnières ont émergé de cette bataille des bulles. Dans les années 60, Pepsi a gagné une manche en revoyant sa clientèle cible et en choisissant de se vendre aux jeunes baby boomers de l'époque, en les rebaptisant la Pepsi Generation. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like On entend présentement la réplique de Coca-Cola et c'est cette campagne publicitaire avec la chanson Hilltop qui a permis à ce qu'on appelle Coke communément de reprendre du poil la bête dans les années 70, au point où, dans un geste de quasi désespoir, le Pepsi Challenge verra le jour. Au cours des années, les résultats démontrent que plus de 50% des consommateurs préféraient le Pepsi, et ce, même au sein des employés de Coca-Cola. En gros, le Pepsi Challenge, c'est très simple, c'est que c'est une dégustation à l'aveugle d'une canette de Pepsi et d'une canette de Coca-Cola. Le New Coke. Les résultats du Pepsi Challenge donneront naissance à ce qui sera nommé le New Coke, qui aura un goût plus sucré et certains diront plus près de celui de Pepsi, l'éternel rival de Coca-Cola. Le New Coke est lancé le 23 avril 1985 et s'est soutenu par une campagne publicitaire majeure avec une des plus grandes vedettes de l'heure, à l'époque Bill Cosby, aujourd'hui emprisonné pour viol. Le nouveau Coke n'a jamais été testé avant son lancement sur le marché et la Coca-Cola Company ne s'attendait pas à l'immense réaction négative que le New Coke recevra. Au point où l'ancien Coke reviendra sur les tablettes le 10 juillet 1985 sous l'appellation Coca-Cola Classic. Le New Coke sera renommé Coke 2 en 1992 et sera vendu jusqu'en 2002, imaginez-vous. Il fera un retour en magasin à l'été de 2019 pour un temps très limité en conjonction avec la sortie de la série Stranger Things 3 de Netflix. Ce qui a vraiment cimenté la marque, c'est que dès le départ, Coca-Cola s'est rendu compte que le marketing et l'image étaient extrêmement importants. C'est eux qui ont créé l'image moderne du Père Noël, ce vieil homme à la barbe blanche et à l'ensemble rouge et blanc. Et ils se sont aussi associés avec les plus grands événements internationaux tels que les Jeux olympiques, avec lesquels ils sont associés depuis 1928, la Coupe du monde de la FIFA depuis 1978, le NASCAR avec deux courses, le Coke Zero 400 et le Coca-Cola 600, la MLB au baseball, la NFL au football, la NBA au basketball et la NHL au hockey. Coca-Cola s'est aussi associé à de grandes vedettes musicales à travers le temps, comme David Bowie, les Bee Gees, Elton John, George Michael, Whitney Houston, et j'en passe. Malgré l'échec du New Coke, les différentes déclinaisons du produit n'ont cessé de voir le jour avec plus ou moins de succès. Le Coca-Cola aux cerises en 85, le Coca-Cola Black à saveur de café, qui a été sur le marché de 2006 à 2008, en passant par le Coke Vanille, le Coke Lime, le Coke aux framboises, le Coke à l'orange, le Coke à la cannelle ou à la lime. On ne peut pas dire que les dirigeants de Coca-Cola sont en manque d'inspiration. En 1919, Ernest Woodruff, alors PDG, voulait que Coca-Cola soit le breuvage de choix sur la planète, quand on sait maintenant que 1 milliard de produits Coca-Cola sont bu par jour sur la planète. On peut dire que c'est mission accomplie. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode et abonnez-vous à la série sur iTunes, Spotify ou Google Play afin d'en apprendre plus sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, André Boustros. N'oubliez pas de laisser votre évaluation sur votre plateforme préférée et à très bientôt.